Le service Orange Monnaie, réception de transfert d'argent depuis la France, vous propose appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient, RFI vous donne la parole dans 30 minutes. Vos réactions sur la situation au Soudan après la dispersion sanglante du sitting des manifestants qui a fait, avec ce nouveau bilan, au moins 60 morts et des centaines de blessés à Khartoum. Et après donc cette décision unilatérale du Conseil militaire d'annuler tous les accords négociés ces dernières semaines avec les contestataires. Alors cette révolution pacifique est-elle terminée? Que vous inspire ce virage radical de la armée et quelle doit être évidemment désormais la réaction des manifestants? Vos réactions nous intéressent, vous continuez à nous envoyer vos commentaires sur la page Facebook de l'émission et vous nous appelez au standard 33 9 693 693 70 et on a envie également de vous entendre sur les condamnations internationales. Sont-elles à la hauteur de vos attentes? Ce sera donc le débat du jour à partir de 10h40 heure de Paris. Mais d'abord, comme tous les matins à 7h06, ce sont vos questions à la rédaction, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Ahmed nous a contacté de Conakry. Bonjour Ahmed. Alors, on va peut-être appuyer sur le bon bouton. Est-ce que Ahmed est avec nous? Alors, je vois Ahmed sur mon écran. Que se passe-t-il? Ça commence bien. Je vais donc peut-être me faire le porte-parole d'Ahmed pour commencer l'émission. On va essayer de le retrouver en cours, puisque Ahmed avait plusieurs questions. Nicolas Falaise, bonjour.
Bonjour.
Votre micro fonctionne, c'est tant mieux. Vous êtes journaliste au service international de RFI. Ahmed souhaite revenir sur le triple sommet organisé jeudi et vendredi dernier par l'Arabie Saoudite. Ahmed nous disait qu'au suite aux tensions qui montent au Moyen-Orient ces derniers temps, eh bien le roi d'Arabie Saoudite a convoqué ses alliés du Golfe, les voisins arabes, pour organiser donc ces trois sommets. Et Ahmed, qu'on a retrouvé, a donc des questions à vous poser, Nicolas Falaise. Ahmed.
Oui, Warren, monsieur Warren, bonjour.
Bonjour, on vous écoute. Quelles sont vos questions?
Bon, suite aux tensions qui montent au Moyen-Orient ces derniers temps, le roi d'Arabie Saoudite a convoqué trois sommets d'urgence à la Mecque pour statuer sur la crise qui secoue le monde arabo-musulman, notamment face à l'Iran. Mmh. Le Qatar y a par surprise été convié. J'aimerais savoir, à l'issue de ces trois sommets, peut-on espérer un dénouement de la crise entre le Qatar et ses voisins du Golfe?
Ah, ça n'a pas échappé à notre auditeur, effectivement. Le Qatar a envoyé à la Mecque son premier ministre. C'est un fait significatif, Nicolas Falaise.
Oui, car cela fait deux ans, aujourd'hui même, que le Qatar a été mis à l'écart, soumis à un boycott de la part de quatre pays de la région, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte. Alors ces quatre pays reprochent au Qatar son soutien présumé à des mouvements extrémistes dans la région et sa proximité avec l'Iran. Alors effectivement, deux ans de crise du Golfe, et c'est dans ce contexte qu'ont eu lieu ces trois sommets. Le sommet de l'organisation de la conférence islamique était prévu de longue date, s'y sont greffés à la dernière minute un sommet de la Ligue arabe et un autre du Conseil de coopération du Golfe. Et effectivement, surprise, comme le rappelle notre auditeur, l'émir du Qatar a été convié par le roi d'Arabie Saoudite. C'est le premier ministre qatarien qui a fait le voyage et qui a participé à ces trois sommets. C'était considéré, on peut considérer cette invitation et cette venue comme un geste, comme un signal. Néanmoins, après coup, puisque les sommets ont eu lieu, on voit bien que les désaccords persistent et on a pu le lire noir sur blanc et l'entendre dans les déclarations des uns et des autres, hein, puisque le Qatar a critiqué les conclusions des sommets, estimant qu'elles étaient ces conclusions contraire à la politique étrangère que Doha, que le Qatar souhaite mener. Le ministre qatarien des Affaires étrangères a même estimé que son pays n'avait pas été consulté pour la rédaction des différents communiqués à l'issue des sommets. Et en retour, en réponse, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis ont fustigé ces critiques, cette prise de distance du Qatar après les sommets. Alors, que disaient les communiqués en question? Bien, ils dénonçaient dénoncer les ingérences de l'Iran dans la région, dans les affaires des voisins arabes. Téhéran critiqué pour son soutien à la rébellion Houthi du Yémen, pour son comportement menaçant, je cite, hein, et pour les menaces que l'Iran ferait peser sur le trafic maritime dans la région. Alors, on voit bien, le Qatar entend toujours mener une politique autonome. Il refuse cet alignement sur la politique saoudienne émirienne qui elle-même est très très proche de la politique de pression maximum que le président américain Donald Trump et son administration entendent faire peser sur Téhéran. Et la crise persiste malgré cette invitation qu'on a remarquée.
Ouais, l'Iran est un sujet de désaccord entre le Qatar et ses voisins. Est-ce qu'il y a d'autres sujets de divergence?
Oui, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, l'Égypte reprochent aussi au Qatar son soutien à la nébuleuse des frères musulmans dans la région et plus généralement son soutien ou sa compréhension de tout ce qui peut apparaître comme des mouvements déstabilisateurs dans la région aux yeux de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, de Bahreïn et de l'Égypte, qui sont aujourd'hui quatre pays qui forment un bloc contre-révolutionnaires de pays qui ont détesté les printemps arabes de 2011 et qui voient le Qatar comme, au contraire, souhaitant quelquefois soutenir ou ne pas rejeter en bloc toute velléité de demande démocratique ou de demande de changement dans la région.
Ahmed, vous aviez une autre question.
Oui, exact. Ces sommets vont-ils influencer sur la politique prochaine menée par ces pays vis-à-vis de l'Iran ?
Visiblement, non, Nicolas Falaise, à vous entendre jusqu'à présent.
Tout indique qu'on s'achemine vers une continuité hein, dans cette ligne dure que l'Arabie Saoudite et ses alliés veulent mener vis-à-vis de l'Iran. Le climat s'est durci ces dernières semaines. Il y a eu des attaques de drones revendiquées par la rébellion Houthi du Yémen. On en a parlé ici même, hein, Rouhan. Il y a eu des mystérieux sabotages de pétroliers non revendiqués, mais les États-Unis ont accusé Téhéran. C'est suite à ces incidents, d'ailleurs, qu'ont été convoqués les sommets auxquels ne faisait allusion Ahmed, notre auditeur. Aujourd'hui, on voit bien que Donald Trump s'appuie sur ses alliés régionaux dans le Golfe, mais aussi en Israël, pour fédérer un bloc d'opposition frontale à l'Iran suite à son retrait, américain de l'accord nucléaire et au rétablissement des sanctions. On ne voit pas aujourd'hui fléchir cette politique dure vis-à-vis de Téhéran.
L'analyse et l'expertise de Nicolas Falaise du service international de RFI. Ahmed, on vous souhaite une belle journée à Conakry, merci de votre fidélité. À bientôt, Nicolas.
À bientôt.
10h18 à Paris, 33 9 693 693 70. Des questions maintenant sur le contentieux territorial entre Madagascar et la France. Des questions posées par Serge, qui nous appelle de Brazzaville. Soyez le bienvenu, Serge.
Oui, Juan, bonjour.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Ok, donc reçu la semaine dernière par le président Macron, le président du Malgache a de nouveau demandé à la France la rétrocession des villes éparses. Alors, première question, pourquoi la France n'a pas restitué à Madagascar? Parce que la résolution le demandait à la France.
Oui, résolution effectivement des Nations Unies adoptée il y a 40 ans, c'était en 1979. Bonjour Jeanne Richard.
Bonjour Serge.
Merci d'être avec nous, journaliste au service Afrique de RFI, ancienne correspondante à Madagascar. Ce litige autour des îles éparses empoisonne les relations entre la France et Madagascar depuis maintenant une quarantaine d'années. Un peu de géographie tout de même, puisque c'est vrai que ce litige est peu connu du grand public. Ces îles, ce sont en fait quatre îlots, des îlots isolés, situés dans le canal du Mozambique, dans l'océan Indien, on va évidemment y revenir dans un instant. Mais Serge le rappelait, il y a 40 ans, une résolution de l'ONU demandait à la France de restituer ces îles à Madagascar.
Oui, dans cette résolution, l'ONU, je cite, invite le gouvernement français à entamer des négociations avec le gouvernement malgache en vue de la réintégration des îles éparses qui ont été séparées arbitrairement de Madagascar. Fin de citation. Car les îles éparses ont en effet été séparées par décret juste avant l'indépendance de Madagascar en 1960. récente et l'ONU estime qu'il aurait fallu respecter au contraire l'intégrité du territoire à ce moment-là. Donc Serge, vous l'entendez, cette résolution est claire, mais elle invite seulement la France à négocier. Cette résolution n'est pas contraignante.
Donc rien n'oblige la France à restituer ses îles, sachant que le pays n'a pas intérêt à le faire.
Oui, parce que ces quatre îlots minuscules, inhabités, entre 7 et 30 kilomètres carrés à peine, recouvrent plusieurs enjeux. D'abord, il y a la question de la souveraineté. À Madagascar, le sujet reste sensible dans l'opinion, car pour les Malgaches, la terre est sacrée. Mais là, en plus, il s'agit d'un litige avec l'ancienne puissance coloniale. La revendication des îles éparses fait donc l'objet d'un large consensus.
Et fait d'ailleurs régulièrement la une de l'actualité sur place. D'ailleurs, lors de sa visite à l'Élysée la semaine dernière, le président Ange Radzoel déclarait, pour le peuple malgache, l'appartenance de ces îles est une question d'identité nationale.
Oui, côté français, même si le sujet est beaucoup plus méconnu, il n'empêche que les réticences ont toujours été très fortes à l'idée de céder la moindre parcelle de territoire. Par exemple, dans un dossier similaire qui concerne l'île Tromelin, revendiquée cette fois par l'île Maurice, eh bien la France et Maurice ont abouti à un accord de cogestion pour cette île Tromelin en 2010, mais il a fallu 20 ans de négociations et il est toujours bloqué à l'Assemblée nationale par les députés de l'opposition.
Il y a donc des enjeux de souveraineté, on l'a bien compris, il y a également des enjeux géostratégiques.
Oui, les îles Éparses sont situées dans le canal du Mozambique, donc une des principales voies de navigation. Un tiers de la production mondiale de pétrole venant des pays du Golfe y circule. La sécurité y est primordiale. Or, Madagascar n'a pas les moyens dissuasifs nécessaires contre les trafics, les mafias, mais aussi la piraterie ou les actes terroristes qui prennent naissance près de la Somalie ou du Yémen et qui pourraient s'étendre dans la zone en cas de retrait français. Même s'il faut un peu relativiser, car s'il y a bien quelques militaires de manière permanente sur les îles Éparses, la grande base française est située à Mayotte, un peu plus au nord. Et c'est surtout cette présence-là, à Mayotte, qui permet la surveillance et le contrôle de la zone.
Et puis l'autre grand enjeu, c'est l'économie. Il est économique.
Et oui, les îles Éparses, si petites soient-elles, possèdent des zones économiques exclusives de plusieurs centaines de kilomètres carrés. C'est un espace maritime qui recouvre près de la moitié de la surface du canal du Mozambique et avec toutes les ressources qui s'y trouvent. Alors parmi ces ressources et richesses, il y a d'abord la pêche côtière et la pêche au thon en forte croissance ces dernières années. Et puis il y a la présence possible d'hydrocarbures en sous-sol. Pour l'instant, les explorations restent superficielles. Aucun forage n'a été fait et donc il est impossible de dire si oui ou non il y a du gaz ou du pétrole ou les deux sous les îles Éparses. Toutefois, la proximité avec le Mozambique alimente tous les fantasmes et les spéculations. En effet, d'immenses réserves de gaz ont été découvertes au large des côtes et les spécialistes nomment désormais le Mozambique le Petit Qatar. Un rapport de 2010 qualifie même la zone de prochaine mer du Nord en puissance. Alors, autre trésor des fonds marins, les nodules polymétalliques. Derrière ce terme technique, il faut en fait comprendre qu'il y a des terres rares, ces métaux précieux indispensables dans les nouvelles technologies. Mais là, comme pour une éventuelle exploitation d'hydrocarbures, on se trouve en mer profonde. L'exploitation coûte très cher et reste complexe. Le ministre des Affaires étrangères de Madagascar, Nain Andjiantitouain, qui était l'invité de RFI samedi dernier, expliquait donc que pour l'instant, ça n'était pas rentable.
Alors, autre question que souhaite poser Serge à Brazzaville.
Oui, la deuxième question. Comment sera composée la commission mixte qui sera chargée de régler ce problème?
Oui, puisque le président français et malgache ont convenu de trouver une solution commune et donc de mettre en place une commission mixte. Avez-vous des informations, Jeanne Richard?
Eh ben pour le moment, la réponse est simple, on n'en sait rien du tout. On ne connaît même pas le nombre de personnes qui vont la composer. Les membres de cette commission vont être nommés rapidement. C'est la seule réponse des autorités malgaches pour l'instant. En 2016, une commission mixte avait déjà été mise en place. Elle était composée de techniciens, de responsables aussi des deux pays. Mais elle n'avait pas vraiment permis d'avancer sur le sujet. Alors cette fois, peut-être que les deux présidents ne vont pas se contenter d'un effet d'annonce, puisqu'ils se sont donné une échéance, arriver à un consensus sur la gestion et ou la restitution des îles Éparses d'ici un an.
Un an, puisque la date est importante. Un an, ce sera l'anniversaire, le 60e anniversaire de l'indépendance.
Voilà.
Voilà. Vous êtes à Madagascar, vous avez peut-être envie de réagir à cette actualité. Appelez-nous, on sera un plaisir de vous donner la parole vendredi dans la Libre Antenne, puisque le vendredi, vous commentez l'actualité de votre choix. Serge, a-t-on répondu à vos questions? Alors, que se passe-t-il?
Allô?
Oui, a-t-on répondu à vos questions, Serge? On a des problèmes de téléphone.
Non, je n'avais que ces deux questions à poser.
Bah tant mieux, on y a répondu, on a pris le temps, c'est important, parce que c'est un sujet, je le disais tout à l'heure, peu connu du grand public, mais voilà, très intéressant, très pertinent. À bientôt, Jeanne, Richard, il nous reste 5 minutes, on va prendre un dernier auditeur, on a été un peu bavard ce matin, mais c'est comme ça, de temps en temps, on prend moins d'auditeurs, on est là pour vous décrypter l'actualité et prendre le temps de répondre à toutes vos interrogations. Stanislas, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour la RFI, bonjour le monde.
Vous êtes au Bénin, vous nous appelez Dalada et vous avez des questions sur l'Angola après les funérailles publiques de Jonas Savimbi.
Tout à fait, 17, Juan Gomez, 17 ans après la mort de Jonas Savimbi, le gouvernement a autorisé la famille de l'ancien chef rebelle à éliminer sa dépouille dans son village. Comment expliquer que cette décision ne parvient 17 ans après la disparition de Savimbi?
Ouais, c'est vrai que le chef rebelle angolais avait été tué en février 2002 lors d'un affrontement avec l'armée gouvernementale. Bonjour Didier Péclard.
Bonjour.
Enseignant-chercheur en sciences politiques et directeur du master en études africaines au Global Studies Institute de l'Université de Genève. Il faut rappeler aux plus jeunes de nos auditeurs qu'en 2002, Jonas Savimbi avait été enterré en catimini dans le centre du pays.
Exactement, oui, effectivement, pour répondre à la question, si les funérailles ne sont intervenues que 17 ans après la mort de Savimbi, c'est parce que l'ancien président, José Eduardo dos Santos, y était formellement opposé, et que, effectivement, Savimbi avait été enterré en catimini très rapidement après sa mort, en février 2002.
Oui.
Pour comprendre, il faut peut-être aussi rappeler rapidement le contexte dans lequel Jonas Savimbi est mort en 2002. C'est donc après 3 ans d'une très vaste offensive menée par les forces gouvernementales angolaises, qui ont décidé à partir de la fin 1998, début 99, de mettre un terme militaire à la guerre. Et dans un contexte aussi bien au niveau national et international, où Savimbi et l'UNISA d'une façon générale étaient décrédibilisés, où Savimbi était plutôt traité comme criminel de guerre, ce qui contrastait avec sa posture de freedom fighter, de combattant de la liberté à l'époque de la guerre froide, où il était soutenu notamment par les États-Unis de Ronald Reagan.
Ouais. Enfin, depuis sa mort en 2002, sa famille et l'UNITA ont cherché à organiser des obsèques en bonne et due forme. Les tractations ont été difficiles. Vous le disiez à l'instant, l'ancien président José Eduardo dos Santos était formellement opposé. Il y a eu un changement effectivement à la tête de l'Angola. Comment expliquer que le nouveau président, lui, ait accepté de le faire ?
Alors, je crois que João Lourenço s'est inscrit dès le début de son mandat dans une politique de rupture. On a vu à travers notamment des initiatives qu'il a prises contre le clan dos Santos, donc de rupture à la fois à l'intérieur de son propre parti et aussi de rupture par rapport à l'histoire de l'Angola. Donc je crois que ce geste est à comprendre dans ce sens-là, même si c'est un geste qui reste très ambigu. Comme vous l'avez certainement noté, il n'y avait pas de représentant du gouvernement angolais lors des funérailles samedi passé. Au contraire, João Lourenço est allé à Kinshasa pour rendre hommage à Étienne Tshisekedi et profiter aussi de faire un sommet avec Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Et il n'y avait pas de représentant du gouvernement. Donc,
ouais. Alors justement, notre auditeur s'interrogeait, notre auditeur dit, mais comment comprendre ? Ces obsèques étaient présentées comme un signe pour la réconciliation nationale et aucun membre du gouvernement ne fait le déplacement pour participer aux obsèques de Savimbi.
Ben, je crois que cette question est excellente, elle montre bien toutes les ambiguïtés du processus. Il n'y a pas eu véritablement de processus de réconciliation nationale après la fin de la guerre, notamment parce que cette guerre s'est terminée non pas par des négociations, un processus de paix où les deux parties se seraient assis autour d'une table de négociation, mais s'est terminée par la victoire militaire du MPLA sur l'UNITA. Et la vaste offensive qui a commencé en 99 et qui a mené à la mort de Jonas Savimbi en février 2002 était en fait la façon pour le gouvernement de Santos d'éviter de devoir entrer dans un processus de négociation et de réconciliation nationale qui lui aurait obligé probablement à faire des concessions qu'il ne voulait pas faire. Ce que le MPLA et dos Santos voulaient, c'était contrôler tout le processus de paix et le processus de réconciliation nationale à partir de 2002. Donc de reconstruction nationale, pardon, à partir de 2002. Donc de réconciliation nationale, il n'y en a pas eu. C'est pour ça que ce geste reste limité, en fait, et on peut parler peut-être de normalisation plutôt que de réconciliation.
De réconciliation nationale. Merci beaucoup Didier Péclard d'avoir pris quelques minutes pour répondre ce matin à Stanislas qui nous appelait du Bénin. On va marquer une pause, retrouver l'ensemble du service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin et on sera de retour tout de suite après. RFI vous donnera la parole sur la situation au Soudan, notamment après la dispersion sanglante lundi dans les rues de Khartoum, opération militaire qui a fait au moins 60 morts. C'est le dernier bilan qui nous arrive.